Chapitre 10. Aventure de deux nègres marrons. Le lendemain, vendredi, à la récréation du matin, une étrange nouvelle se répandit dans le lycée avec une rapidité télégraphique. Perroche et Tanguy avaient disparu. Personne ne pouvait dire de quelle façon, ni depuis combien de temps. Privés tous deux de sortie, ils avaient fait partie d'une colonne mixte d'élèves de toutes les divisions, envoyés en promenade vers le bois du Gros Tesson, sous la surveillance d'un maître auxiliaire. Depuis ce moment, on n'avait plus leurs traces. Au retour de la colonne pour l'heure du goûter, leur absence avait passé inaperçue. Le maître auxiliaire, connaissant imparfaitement les élèves confiés à sa garde, n'avait pas remarqué qu'il lui manquait. Le soir, au dortoir, le vide de deux couchettes avait été mis au compte de retardataires restés chez leur correspondant. Bref, c'est seulement à l'étude du matin que M. Pellerin constata les deux absences et reconnut que Perroche et Tanguy manquaient à son total. Il savait bien, lui, qu'ils avaient été privés de sortie et ne pouvaient pas par conséquent s'être attardés chez leur correspondant. Il s'était assuré, après le lever, que personne ne restait au dortoir pour cause de maladie. Il n'y avait donc qu'une conclusion à tirer, c'est que les deux illustres personnages s'étaient éclipsés la veille. Un rapport sommaire au censeur fut immédiatement suivi d'une enquête rapide, et en moins d'une demi-heure, un fait resta, sinon avéré, du moins vraisemblable, c'était au cours de la promenade extramuros que les deux compères avaient disparu. Qu'était-il devenu? C'est ce que nous nous demandions tous avec une intense curiosité. Curiosité qui fut bientôt portée au comble quand nous nous vîmes appelés l'un après l'autre chez Monsieur le censeur et soumis à un interrogatoire serré sur ce que nous pouvions savoir à cet égard. Quelle était notre opinion personnelle sur l'événement? Perroche ou Tanguy avait-il indiqué des projets d'évasion? Il était de notre devoir de dire ce que nous savions, car on pouvait craindre que les malheureux enfants n'eussent été les victimes de quelque accident. La plupart d'entre nous n'eurent naturellement à donner que des réponses absolument négatives. Quelques-uns de ceux qui avaient été consignés et qui avaient fait partie de la colonne envoyée au Gros Tesson purent seuls confirmer l'opinion générale qui faisait remonter la disparition à l'heure de la promenade. Verschuren, notamment, donnait à entendre par ses clignements d'yeux qu'il en savait long sur l'affaire, mais en somme, il ne voulut rien dire. Ce mystérieux événement fut encore le sujet des conversations à la récréation de 10 heures. À midi, on n'y pensa plus guère. À 4 heures, c'était tout à fait de l'histoire ancienne. Il était environ 7 heures du soir et nous étions tous au quartier, plongés dans notre thème grec, quand un grand bruit de pas se fit entendre dans le couloir. Il y eut là des va-et-vient, comme un piétinement de galoches et de grosses bottes, puis un bruit de chaîne et un murmure de voix confuses. Nous écoutions avec anxiété. Enfin, la porte s'ouvrit. Le censeur pénétra dans l'étude, et derrière lui, le spectacle le plus inattendu s'offrit à nos regards. Deux gamins déguenillés, à demi vêtus de haillons sordides, chaussés de gros sabots et noirs de peau comme des ramoneurs, firent leur entrée. Ils étaient enchaînés et tenus en laisse par un gendarme. Puis venait un maréchal des logis que nous reconnûmes d'emblée à certains traits distinctifs de son martial visage, comme le père de notre camarade Piffard. Enfin, le proviseur fermait la marche. Tout le monde se leva, selon l'usage, et considéra en silence le groupe singulier que formaient, au milieu de l'étude, les deux prisonniers et leur escorte. Il nous semblait bien reconnaître Perroche et Tanguy sous la suie dont ils étaient masqués. Mais l'apparence qu'ils se fussent ainsi déguisés, cela ne paraissait pas possible. On ne se salit pas de la sorte à plaisir et ne trouve pas qui veut des loques comme celles qui les couvraient. Le mendiant le plus endurci aurait rougi de se montrer dans ce déshabillé. Les malheureux baissaient les yeux vers le parquet, ce qui achevait de rendre leur physionomie encore plus malaisée à distinguer. Monsieur Ruette mit fin à notre indécision. « J'ai tenu, nous dit-il, à vous ramener vos camarades dans le brillant costume qu'ils avaient adopté au moment où la force publique les a appréhendés au corps. Ce joli monsieur-là, que vous vous évertuez vainement à reconnaître, n'est autre que Péroche. Celui-ci est Tanguy. Regardez-les bien, et voyez où les ont conduits 24 heures d'école buissonnière. » Un cri d'étonnement, mêlé pour quelques-uns d'une véritable stupeur, salua cette présentation. Les deux coupables ne riaient pas, eux. Je les vis distinctement rougir sous leur noir de fumée. Le proviseur reprit gravement. Profitant de la demi-liberté de la promenade, Tanguy et Péroche se sont soustraits à la salutaire discipline du lycée pour aller courir les aventures. Tristes aventures, s'il faut en juger par les résultats. Je n'insiste pas, mes enfants, sur l'énormité d'une faute qui a eu pour effet de nous causer depuis ce matin de terribles inquiétudes. Je suis trop heureux que les deux fugitifs aient été retrouvés sains et saufs, sinon tout à fait en bon état, pour les punir bien sévèrement. Cependant, il ne serait pas juste qu'ils reprissent tout simplement leur place au milieu de vous sans aucun memento de leur désertion. Ils seront donc privés de sortie pendant un mois, et de plus, je les condamne à garder jusqu'à l'heure du coucher l'élégante livrée qu'ils ont rapportée de leur escapade. Pour une récidive, je serai plus impitoyable, et je renverrai simplement les coupables à leur famille. Maintenant, monsieur le gendarme, voulez-vous avoir l'obligeance de rendre la liberté à vos prisonniers ? Le brave soldat s'empressa d'obtempérer à l'invitation et d'ouvrir, à l'aide d'une petite clé, la serrure des menottes qui retenaient au bout de leur chaîne les poignets des deux malheureux. Puis, avec son chef, il quitta l'étude. Monsieur Ruette et le censeur ne tardèrent pas à se retirer aussi, après avoir échangé quelques mots avec Monsieur Pellerin. Un murmure de réprobation et de chuchotements étouffés s'éleva aussitôt de tous les bancs. Ahuri, comme hébété, Péroche et Tanguy étaient restés au milieu de la salle. La lumière crue des quinquets tombait sur eux, éclatante, inexorable, et nous montrait dans toute son horreur le déplorable état de ces enfants prodigues. Ils étaient véritablement affreux à voir et en avaient le sentiment. Que n'auraient-ils pas donné pour pouvoir se soustraire à nos regards ? Monsieur Pellerin eut pitié d'eux. « Allons, messieurs, qu'on se remette au travail, nous dit-il. Et vous, ajouta-t-il en s'adressant aux deux coupables, à vos pupitres. » Ils s'y traînèrent lentement. Tanguy, en arrivant à sa place, cacha sa tête dans ses mains et ne bougea plus. Péroche était toujours mon voisin de gauche. Il s'affaissa plutôt qu'il ne s'assit sur son banc. « Sais-tu quelle heure il est et si nous allons bientôt souper ?» me demanda-t-il à mi-voix. Il avait une faim de loup. Comment pouvait-il avoir faim avec une tête pareille ? Mais tel était son tempérament. Au milieu du plus terrible naufrage, il aurait pensé, avant toute chose, aux biscuits. « Encore un quart d'heure d'étude, » lui répondis-je, heureux de le voir prendre son désastre par le bon côté. « Fichu baraque, » reprit-il, « on ne peut même pas manger à son heure. » Quand on est libre, au moins on fait ce qu'on veut, on reste à table tout à son aise, on dîne 4 fois par jour, on mange 6 fois du dessert si cela vous va. « Bah, est-ce que vous seriez amusé ? » demandai-je légèrement alléché par ce programme. Ma passion des voyages se réveillait subitement en moi. « Ah, je t'en réponds !» fit Péroche avec un accent qui me parut un peu forcé. « Sans ces maudits gendarmes !» Péroche, je vous serai très obligé de réserver vos confidences pour la récréation de demain, dit M. Pellerin qui surveillait les deux coupables. Et vous, Bénard, occupez-vous de votre thème. Le silence se rétablit. Pendant quelques minutes, on n'entendit plus que les plumes grinçant sur le papier. La face de Tanguy restait toujours cachée entre ses mains. Bientôt, pourtant, je n'y tins plus. « Pourquoi êtes-vous si noir et si déguenillé ? » demandai-je à Péroche en feignant de chercher un livre dans mon pupitre. « Ah, voilà, fit-il, nous sommes joliment déguisés, hein ? » « Vous auriez pu choisir un accoutrement plus propre. » « Bah, pourvu qu'on soit libre, on se moque bien d'être élégant ou non. »« Péroche, je vous y prends encore, » reprit Monsieur Pellerin. « À la troisième observation, je serai obligé de sévir. » Assez honteux d'avoir été l'occasion de la mercuriale, je me remis au travail. L'étude s'acheva sans incident. Au fond, Péroche commençait à piquer ma curiosité. Au réfectoire, l'entrée des deux nègres marrons fit sensation. On se les montrait de table en table, on se communiquait à l'oreille la façon dont leur retour s'était effectué, et l'on ne se gênait pas pour sourire. Toute manifestation qui semblait fort pénible à l'amour-propre de Tanguy. Il avait les yeux très rouges, comme s'il se fût laissé aller sur son pupitre à un accès de désespoir humide, et mangeait en silence, d'un air sombre et farouche. Quant à Péroche, sans perdre un coup de dent, il semblait dire par son attitude que nos railleries lui étaient à peu près indifférentes. Enhardi même par nos mines curieuses, il en vint bientôt à se vanter ouvertement de ses prétendus exploits. « C'est hier soir que nous avons bien dîné, » fit-il tout à coup. « Mon cher, figure-toi une omelette grande comme la moitié de cette table, avec un tas de petits morceaux de lard, quelque chose de savoureux, de fondant, enfin, un véritable chef-d'œuvre. » « Et avec l'omelette ?» demanda indiscrètement Verschuren. Péroche parut légèrement interloqué. « Avec l'omelette ?» Il chercha dans sa tête et ne trouva probablement rien car il reprit. « Ah, dame, c'était à la campagne, tu comprends, en pleine forêt, une ferme déserte au milieu des bois. Il ne faut pas demander à des paysans de vous donner ce qu'ils n'ont pas, à la guerre comme à la guerre. Mais pour une fière omelette, c'était une fière omelette, n'est-ce pas, Tanguy ?» Tanguy fit de la tête un signe équivoque et mélancolique. Cela pouvait à la rigueur passer pour une approbation. Mais évidemment, ce n'était pas de l'enthousiasme. « Et les noix, hein, Tanguy, elles étaient fameuses aussi !» reprit Péroche, s'échauffant d'autant plus à la pensée de ce festin rustique que son complice semblait moins disposé à en vanter les splendeurs. « Jamais je n'ai mangé de noix pareilles !» En somme, vous avez dîné avec une omelette et des noix, reprit l'impitoyable Verschuren. Ce n'est pas très fameux. Oh, il est clair que nous n'avons pas eu un banquet à trois services, répliqua Péroche du ton d'un voyageur qui a acquis une profonde expérience des quatre parties du monde. Avec tes idées, on resterait toujours dans son trou sans voir du pays. Il faut savoir s'accommoder aux circonstances, que diable! Ces réflexions s'accordaient trop bien avec les principes que j'avais toujours vus émettre par les voyageurs célèbres pour n'avoir pas ma chaleureuse approbation. Sans doute, m'empressai-je de dire, on est quelquefois bien heureux en voyage d'avoir pour dîner un morceau de pémican ou même une racine de manioc. Le pémican et le manioc étaient deux de mes articles de foi. Je croyais fermement que ces deux mystérieuses substances faisaient le fond de l'alimentation de tous les grands voyageurs. On n'a pas tous les jours la chance de tomber sur un arbre à pain ou d'abattre un kangourou pour se faire un rôti, ajoutai-je d'un air entendu. Cette observation parut généralement marquée au coin du sens le plus pratique et fit remonter les actions de Péroche dans l'opinion de toute la table. Quant à lui, il m'en fut si reconnaissant qu'en quittant le réfectoire pour monter au dortoir, il me dit en me poussant le coude « Verschuren est un idiot qui ne comprend rien au voyage. Je te raconterai toute l'affaire demain matin à la récréation. » On peut penser si j'attendis avec impatience ce bienheureux moment. Les deux fugitifs, après un bain copieux, avaient repris la tenue du lycée et était maintenant à peu près présentable, ce qui n'empêchait pas Tanguy d'être toujours sombre comme la nuit. Quant à Péroche, cette toilette avait achevé de lui rendre son aplomb. « Tu veux bien que Baudouin écoute ton récit avec moi ?» lui dis-je en courant vers lui. « Va pour Baudouin, » fit-il d'un air majestueux. « Mais il faut que vous me promettiez tous deux de ne pas répéter ce que je vais vous raconter, car vous pensez bien que ce n'est pas fait pour le commun des martyrs. » Nous nous engageâmes sous les serments les plus solennels, et Péroche commença aussitôt. « Vous saurez donc, » nous dit-il d'un ton d'oracle, « que j'ai toujours eu la passion des voyages. Mais je ne me contente pas, comme certaines gens, des aventures plus ou moins véridiques qu'on trouve dans les livres. Il me faut l'expérience personnelle, l'émotion du danger, la nouveauté des spectacles. J'avais donc résolu depuis longtemps d'explorer les bois de Gros Tesson, dont on nous permet à peine en promenade de longer la lisière. Avant-hier, jeudi, étant privé de sortie comme à l'ordinaire, il m'a paru que l'occasion était favorable. Mon projet était d'abord de disparaître pendant la promenade et de rentrer le soir avec vous autres, à l'heure où vos correspondants vous auraient reconduit. J'en ai causé avec Tanguy, qui m'a demandé à être de la partie. Entre nous soit dit, on ne me reprendra plus à rien entreprendre avec Tanguy. Tanguy est une mazette. Du reste, si j'ai consenti à l'accepter comme compagnon de voyage, c'est simplement parce qu'il avait 100 sous. Moi, je n'avais que 20 centimes. Vous comprenez que je n'aurais pas pu aller bien loin. L'affaire conclue, nous sommes partis en promenade. Aussitôt que les rangs ont été rompus, nous nous sommes cachés derrière une haie et nous n'avons pas tardé à rester seuls. Quand la division a été hors de vue, nous avons filé du côté opposé. Nous n'avions pas fait 100 pas vers les bois que Tanguy commençait à geindre. « Où allons-nous maintenant ? » disait-il. « Nous voilà frais, nous allons nous perdre pour sûr. » J'avais bonne envie de le planter là et de le laisser s'en retourner avec la division. Mais les 5 francs m'en empêchaient, vous comprenez. Bref, nous avons marché et nous sommes arrivés au point où la route s'engage dans la forêt. Nous étions déjà pas mal fatigués. Aussi, nous sommes-nous assis sur un tas de pierres. Tanguy devenait tout à fait insupportable. « Nous voilà bien avancés, » disait-il. « Qu'est-ce qu'il y a de curieux ici, après tout ? C'est bien la peine de tant se fatiguer. » Enfin, toutes les objections bêtes que les poltrons font généralement aux voyageurs. Par exemple, les compagnons de Christophe Colomb au moment même d'arriver en Amérique. J'étais très ennuyé, mais que faire ? Nous étions en train de nous disputer assez vivement quand tout à coup, nous avons vu venir un homme qui traînait une petite charrette. Sur cette charrette, il y avait un orgue de barbarie. L'homme n'est pas plus tôt arrivé devant nous qu'il s'est arrêté et qu'il a commencé de moudre son orgue. Figurez-vous un gaillard très brun, avec un bonnet en peau de renard, des anneaux d'argent aux oreilles, un foulard rouge au cou et un costume de velours vert bouteille. Tout en tournant la manivelle de son instrument, il s'est mis à nous faire des grimaces, mais là, des grimaces comme on n'en voit pas. Il était tout à fait hideux. Puis tout à coup, il a commencé à siffler en imitant sur l'air qu'il jouait le chant de tous les oiseaux possibles. Vous pensez si nous aurions aimé de pouvoir en faire autant? Enfin, quand il a eu fini sa représentation, il nous a tendu son bonnet. Ma foi, je n'avais pas envie de lui donner nos pauvres sous et je lui ai déclaré que nous n'avions pas de monnaie, mais seulement une pièce de 5 francs. Peut-être ces messieurs aimeraient-ils mieux apprendre la musique, nous a-t-il dit alors d'un ton très gracieux et sans avoir le moins du monde l'air fâché de notre refus. Naturellement, je lui ai répondu que j'aimerais bien savoir siffler comme lui et nous sommes devenus très bons amis. Il nous a appris alors qu'il s'appelait le signor Pantaccione et qu'il était le fils d'un prince napolitain. Mais sa passion pour la musique l'avait entraîné à entrer au conservatoire de musique et après avoir eu tous les grands premiers prix à ce célèbre établissement, il avait débuté avec un succès prodigieux au théâtre de la Scala. Bientôt pourtant, fatigué de la monotonie de ses triomphes, Il avait acheté sur ses économies cet orgue de barbarie que nous voyons là, et il s'était mis à voyager à pied pour son plaisir. Son histoire n'était pas sans analogie avec la nôtre. Nous n'avons pas hésité à lui faire confidence du fait, et finalement, il a été entendu qu'il consentait à nous recevoir en qualité d'élève. Nous sommes donc repartis avec lui. Sans plus tarder, il a commencé de nous donner les premiers principes de l'art. Par exemple, ce n'est pas très drôle au début, parce qu'il faut se fortifier les poumons, et dans ce but, faire des exercices très rudes, tirer une charrette en particulier, ou pousser à la roue au monté. Enfin, il faut passer par là pour bien siffler. Nous avons marché très longtemps dans les bois, en nous exerçant ainsi, et après bien des peines, nous sommes arrivés dans une petite ferme isolée. Il faisait tout à fait nuit, et je n'ai pas besoin de vous dire que nous avions grand appétit. Le paysan a commencé par assurer qu'il n'avait rien à nous donner. Mais Pantaleon était un homme de ressources. C'est lui qui, avec des œufs et du lard, nous a confectionné cette glorieuse omelette dont je vous ai parlé. Et quelle soirée nous avons passée ! Pantaleon n'en finissait pas de nous raconter des histoires et de nous faire des tours de passe-passe. Je vous réponds qu'il en sait de drôles, mais j'abrège mon récit. Comme nous étions très fatigués, nous avons demandé à nous coucher, et le fermier nous a cédé son lit, tandis qu'il restait au coin du feu, à causer avec l'ami Pantaleon. Voilà ce qui s'appelle s'amuser, n'est-ce pas ? J'étais presque de l'avis de Perroche, et je me faisais une peinture délicieuse de ce dîner avec le joueur d'orgue, grand prix des conservatoires, dans une ferme isolée, et de cette soirée passée au coin du feu à écouter des contes. Mais Baudouin, moins possédé que moi de la passion des voyages, était naturellement sceptique. « Dans tout cela, plaça-t-il ici, je ne vois pas pourquoi vous êtes revenu habillé en ramoneur. » « Attends donc, reprit Perroche d'un ton piqué, tu es trop pressé aussi. C'est seulement le lendemain que la catastrophe est arrivée. Les maudits gendarmes se sont mis de la partie. Nous étions bien tranquillement endormis dans un grand lit à baldaquin, et je te réponds que nous étions disposés à faire la grasse matinée, quand Pantaleon est arrivé à notre chevet et nous a dit à demi-voix en nous secouant. « Ils sont là !»« Qui là ?» avons-nous demandé. « Les gendarmes envoyés à votre poursuite. Le fermier les a vus qui montent le coteau. Dans 10 minutes, ils vont vous arrêter et vous mettre en prison. » Cette nouvelle a naturellement achevé de nous réveiller. Que faire ou nous cacher ?« Attendez !» nous a dit alors le brave Pantaleon. « Je vais demander au fermier s'il a quelques vieux habits à vous prêter. Ces costumes de lycéens vous dénonceraient trop. Puis je vous conduirai dans une cachette où les gendarmes ne vous trouveront pas. J'en réponds. » Le paysan avait justement quelques vieux haillons qu'il nous a jetés. Nous nous sommes hâtés de les revêtir et de passer par la fenêtre de derrière avec Pantaleon. Il nous a conduits dans le taillis, à une très grande distance de la ferme, jusqu'à un endroit où des charbonniers sont établis. C'est très curieux leur manière de fabriquer le charbon. Ils font de grands tas de bois qu'ils couvrent avec de la terre et qu'ils allument ensuite par-dessous jusqu'à ce que le bois soit carbonisé. Cela prend plusieurs jours et il y a ainsi des tas qui commencent à brûler, d'autres qui sont en train et d'autres qui sont refroidis. Il y avait 5 hommes occupés à placer le charbon dans de grands sacs et à le ranger ensuite sous un hangar de branchage. Pantaleon nous a alors engagés à offrir nos services aux charbonniers afin de dérouter les gendarmes s'ils venaient à passer. Puis il est reparti vers la ferme pour voir comment allaient les affaires. Probablement, il a craint d'être suivi en revenant, car nous ne l'avons pas revu. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que dans notre hâte, nous avions oublié notre argent dans nos poches. Il a donc fallu se résoudre à travailler pour de bon avec les charbonniers pour gagner notre déjeuner. Encore ce déjeuner ne se composait-il que d'un morceau de pain avec un oignon. Tanguy faisait une tête. Non, c'est là vraiment un trop mauvais compagnon de voyage. Il n'a pas cessé de geindre tout le long du jour. Mais j'étais encore assez content parce que je voyais une bonne soupe mijotée pour le dîner dans un des fours à charbon. Malheureusement, les gendarmes sont arrivés vers 5 heures et la première chose qu'ils ont faite a été de nous demander nos papiers. Nous n'en avions pas bien entendu et nous avons refusé de dire nos noms. C'est alors que nous avons été arrêtés et conduits à la prison cantonale, puis, sur une dépêche télégraphique du proviseur, ramenés ici. « Je ne vois pas ce qu'il y a de bien amusant dans tout cela, » remarqua Baudouin avec son bon sens ordinaire. « Ton Pantation m'a tout l'air de vous avoir, tout en se moquant de vous, volé vos habits et votre argent, et vous n'avez gagné à votre escapade que de travailler comme des nègres pour les charbonniers, et à jeun encore. » Perroche eut un regard de pitié pour ce profane et m'entraîna dans un coin de la cour pour me donner à moi seul de nouveaux détails sur la vie sauvage et sur les heures de prison. Je ne me lassais pas de lui en demander tout le long du jour, chaque fois que nous nous retrouvions en récréation. La mine déconfite de Tanguy aurait pourtant dû m'avertir que tout n'est pas rose dans ces sortes d'aventures, et le scepticisme de Baudouin aurait dû réagir sur ma crédulité. Mais rien n'y faisait. Je me traçais de cette expédition, même après son triste dénouement, la plus brillante des peintures. Telle était sur mon imagination l'influence dangereuse de cet ordre d'idées, que de toute la journée, il me devint impossible de songer à autre chose. On peut penser si mes devoirs et mes leçons en souffrirent. Ces billes vesées me poursuivirent jusqu'au dortoir, et je me rappelle fort bien qu'en m'endormant, je ne rêvais plus que joueur d'orgue, omelette au lard et même sac à charbon. Baudouin se serait bien moqué de moi si je lui avais dit la sotte admiration que ce malheureux Perroche avait fini par m'inspirer. Aussi n'avais-je garde d'en souffler mot. Mais il n'aurait peut-être pas fallu me presser beaucoup pour m'engager dans une aventure du même genre. Par bonheur, je devais bientôt apprendre ce que valent ces ridicules équipées et à quoi elles se réduisent le plus souvent. Le dimanche matin, nous étions au quartier, quand M. Ruette arriva pour nous donner lecture des notes hebdomadaires. À peine eut-il terminé, « Messieurs, nous dit-il, je vais maintenant vous communiquer quelques extraits d'un rapport qui m'a été envoyé par M. le préfet au sujet de la triste escapade tentée par Perroche et Tanguy. Vous y verrez à quelles associations, à quels dangers redoutables mènent en général ces sortes de plaisanteries. Le nommé Pantation, disait le rapport, est un malfaiteur de la pire espèce, plusieurs fois condamné pour escroquerie et placé sous la surveillance de la police. C'est en le trouvant vendredi matin sur la route de Gros-Tesson, porteur d'un paquet dans lequel étaient pliés 2 uniformes complets de lycéens, que l'attention de la gendarmerie départementale a été éveillée sur cette affaire. Cet homme a été mis en état d'arrestation et de ses aveux est promptement résultée la certitude qu'il avait imaginé tout un système de fables pour déterminer les nommés Tanguy et Perroche à se revêtir de haillons en échange de leurs uniformes. Ces 2 jeunes imbéciles ont été retrouvés 6 heures plus tard, travaillant dans une fosse à charbon où Pantation les avait décidés à se réfugier. Après leur avoir fait traîner la veille sa charrette à bras à la place d'un âne qu'il a perdu récemment, il n'avait rien trouvé de mieux que de les placer là en les dépouillant de leurs habits et de leur argent. Encore peuvent-ils s'estimer heureux après avoir passé presque toute une journée sans manger, avoir été écroué à la prison cantonale comme vagabond et avoir été mis à la chaîne pour rentrer au lycée, d'en être quitte à si bon marché. Ils auront à comparaître comme témoins quand l'affaire de Pantation sera appelée devant la cour d'assises. C'était là le dénouement de mes rêves de la veille. Perroche et Tanguy, associés à un voleur, obligés bientôt d'aller étaler leur honte devant un tribunal. Il me semblait, en écoutant cette lecture accablante, que je tombais de 100 pieds de haut. Ah, comme je me promis bien, maintenant que je voyais où pouvaient conduire de telles aventures, de ne plus jamais en caresser l'idée. Si tout le lycée se moqua de Péroche et de Tanguy, on peut aisément l'imaginer. Mais ils n'en furent pas quittes à si bon marché. À ces railleries vinrent bientôt s'ajouter les justes reproches et la douleur de leur famille. Enfin, le journal du département fit de leur mésaventure un récit humoristique qui eut un grand succès de gaieté. Ce récit fut reproduit par les journaux de Paris et ne tarda pas à faire le tour de la presse étrangère. En moins de 6 semaines, la moitié du globe sut ainsi qu'il y avait au lycée de Châtillon 2 jobards nommés Péroche et Tanguy. Heureusement, on ne savait pas qu'il y en avait un troisième nommé Bénard qui avait été assez niais pour admirer pendant 24 heures ses tristes exploits.